Safe Family, qui ont donc fait des études sur des grands nombres d'échantillons. Mais il y a aussi des chiffres qui ont été mis en place par des psychologues non chrétiens. Donc on a un apport des deux côtés. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai les sources. Mais donc c'est une famille sur deux pratiquement. 47% des familles chrétiennes disent que la pornographie est un problème chez eux. Une famille sur deux dans le monde chrétien.
Donc la prochaine, ce sont des cabinets d'avocats américains qui ont donné cette information. La pornographie sur Internet a été un facteur déterminant dans 2 divorces sur 3 en 2003, ce qui 10 ans avant n'existait absolument pas. En moins de 10 ans, la pornographie est devenue un... Alors ce n'est pas la seule cause du divorce, attention, mais c'est un facteur aggravant qui a fait que...
Et cette donnée suivante est très surprenante, on vous l'expliquera. Mais les pics de consommation sur les sites pornographiques sont le dimanche. Ciblés les chrétiens, les pasteurs sont ciblés par cet outil que le diable a utilisé. Et le dimanche, il y a un pic de consommation. On vous expliquera pourquoi.
Donc là, ce sont maintenant des statistiques qui sont un petit peu plus alarmantes. Dès que vous avez l'âge moyen pour l'exposition d'un enfant à la pornographie est de 11 ans. Et l'âge de la première exposition, c'est la première fois qu'ils sont confrontés, est tombé à 7 ans. Donc vous imaginez, c'est tellement grave qu'il y a de plus en plus de petites filles qui deviennent pubères alors qu'elles sont encore à 10, 11 ans, 12 ans. Pourquoi ? Parce que leur cerveau a été stimulé par des images pornographiques et qui envoient bien trop tôt le signal au corps de commencer la puberté. Et c'est une conséquence quasi direct et prouvé du visionnement d'images pornographiques.
Entre 8 et 16 ans, 90% des enfants auront été exposés. Le plus souvent alors qu'ils font des recherches pour des exposés pour leurs devoirs. 90% de nos enfants entre 8 et 16 ans vont être exposés.
Quand vos enfants vous demandent « je fais des recherches d'images parce que la maîtresse ou le maître a dit que », sachez qu'ils sont en super danger, à moins que vous ayez déjà installé des filtres. Il y a sur certaines marques d'ordinateurs, je ne dirais pas les noms, mais des filtres naturellement qu'il faut enlever, mais ils sont là naturellement. D'autres systèmes n'ont aucun filtre et c'est à vous de les mettre. Donc dès que vous faites une recherche d'image, vous pouvez bien mettre fromage ou chocolat, vous risquez d'avoir quelque chose d'autre qui vient au milieu. Le problème, c'est quand un enfant est exposé à cela, l'enfant peut dire au revoir à son enfance parce qu'il est projeté dans un monde qui n'est pas le sien et de la pire des manières.
26 noms ont été recensés dans les personnages pour enfants. Alors, je suis pas à la page pour les personnages pour enfants, mais Action Man, Pokémon, ces trucs-là, en fait, des milliers de sites ont été reliés à ces noms de personnages pour enfants, de façon intentionnelle, pour accrocher les enfants. Parce que si vous les accrochez jeunes, ils sont accros pour toute leur vie, à moins que quelque chose ne se passe, qu'il y ait une prise de conscience, etc. Mais le but, c'est de les accrocher jeunes, parce qu'après, ils sont cuits pour toute la vie.
Il faut bien comprendre la démarche qui est derrière ces grands groupes. La démarche est purement commerciale. Il y a quelques années, je me rappelle, en 88, j'étais allé en Inde et à l'époque, les Indiens de la République indienne consommaient, enfin, la population consommait peu de tabac. Qu'est-ce qu'ont fait les grands cigarettiers ? Ils ont, pendant des années, inondé le marché de paquets gratuits. Quel était l'objectif ? C'était attrayant, etc. C'était de faire en sorte que les jeunes soient avec des publicités, soient accrochés. Et devinez ce qui s'est passé quelques années plus tard. Les paquets sont devenus payants. Et la population qui ne consommait pas de tabac particulièrement est devenue consommatrice. Si vous touchez des enfants avec la pornographie, ce sont des adultes potentiels, surtout des ados et des adultes après, qui deviendront des consommateurs. Quand vous regardez les chiffres colossaux qui sont derrière, vous comprenez pourquoi il y a cette démarche mercantile. Pour les plus âgés, est-ce que vous vous souvenez du combat qu'il y a eu pendant un temps entre Sony et Philips pour les cassettes VHS et Betacam ? Vous vous souvenez tous de ça ? Pour ceux qui s'en souviennent, le Betacam était d'une bien meilleure qualité que le VHS. Ce que l'on ne sait pas généralement, c'est que Sony a interdit l'utilisation de ces cassettes pour la pornographie. Philips a dit oui. Les industries pornographiques ont tout misé sur le VHS. Au bout de quelques années, le Betacam a disparu. Et tous vos lecteurs à grosses cassettes étaient des VHS. Chose que nous, on ne peut pas connaître. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'industrie de la pornographie derrière, qui est tellement puissante en argent et en capacité financière que c'est eux qui ont poussé ce système par rapport à l'autre qui était pourtant meilleur.
Ils sont derrière le 3D aujourd'hui.
Alors, on parle ici de soit de magazines pornographiques, donc en une dimension, soit de films en deux dimensions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, dont vous avez tous entendu parler, qui est le 3D. Le 3D, ça... Donc déjà, la pornographie classique, je dirais, dans un film ou dans un magazine, accroche pour des raisons que l'on va voir. Le 3D, c'est comme une drogue dure. À la première prise, on peut être accro. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être filmés différemment pour faire en sorte que le spectateur devienne acteur du film et que ça soit comme si c'était la vérité. Et des études, déjà quelques petites études ont été faites et les conséquences sur le cerveau sont quasi instantanées. Vous avez remarqué que les téléviseurs 3D sont déjà dans vos maisons, alors qu'il n'y a aucun recul par rapport à la technologie, et que vos enfants ont des consoles de jeux qui sont quoi ? 3D. Devinez ce qu'elles peuvent passer en plus des jeux ? Des films. Donc vos enfants peuvent avoir dans leur poche un film pornographique en 3D qui va être comme une dose d'héroïne, littéralement, et ils seront fixés à la première ou au second visionnage. Et qui est derrière cette industrie ? Qui pousse avec des milliards de dollars derrière ? Ce sont des grands groupes qui ont des intérêts placés dans cette industrie. Donc en fait, nos enfants et nous-mêmes sommes une cible purement et simplement de grands groupes mercantiles.
20-30% des films mettent en scène des enfants. Et les enfants qui ont été exposés, vous avez entre 14 et 16 ans, ont plus de risques de devenir actifs au niveau sexuel que des enfants non exposés. Donc ça double les risques à ce niveau-là d'exposition, passage à l'acte. Chez les femmes, pareil, les chiffres sont difficiles à avoir parce que, évidemment, comme vous le comprenez, c'est un sujet tabou, mais 28% de ceux qui reconnaissent être en proie contre ce problème sont des femmes. C'est un problème nouveau, en fait. Au départ, ça n'aurait dû toucher que les hommes, mais les femmes, maintenant, aussi sont touchées. Les hommes et les femmes, comme vous le savez, ne fonctionnent pas de la même façon au niveau de la sexualité. Et les femmes ne devraient pas être stimulées par les yeux. Mais maintenant, elles ont été emmenées dans cette vague déferlante et on a presque 30% des femmes qui sont dedans. 34% des lectrices d'un magazine chrétien féminin disent qu'elles vont de façon intentionnelle sur ces sites. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Donc en fait, on tombe un degré plus bas dans la décadence en fait. Une femme sur six a un niveau d'addiction qui est avancé. Donc elles vont aussi avoir les mêmes difficultés que les hommes. Les femmes ne sont pas stimulées par les yeux, comme je l'ai dit. Bien qu'elles ne soient pas stimulées par les yeux, 30% ont des problèmes avec ça. Il y a une autre forme de pornographie pour les femmes qui se trouve au niveau du fantasme, en fait, au niveau de l'imagination. On en touche juste un petit mot en passant parce qu'en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, si vous voulez voir la pornographie du point de vue féminin, vous pouvez simplement copier-coller avec la base que je vais vous donner là tout ce qu'on va partager après. Donc, les femmes, en fait, c'est les émotions qui vont être stimulées et elles vont se mettre à imaginer au travers de romans à l'eau de rose. Alors, encore une fois, je ne sais pas si je suis à la page, mais Harlequin, ces trucs-là. Et puis aussi les films. Les films romantiques, les films pour les filles, comme ils disent aux États-Unis, les films romantiques qui vont les aider à s'évader, en fait, dans quelque chose de plus joli. Et la version chrétienne de la pornographie au féminin des fantasmes, c'est d'imaginer la vie quand elles ont des difficultés dans leur couple, par exemple, si le mari était mort. Donc, au niveau chrétien, on s'excuse comme ça en se disant ah ben oui mais si j'étais veuve j'ai le droit d'imaginer une autre vie et donc là elles se prennent à rêver de quelqu'un d'autre. Ça fait exactement les mêmes dégâts que la pornographie avec les yeux en fait parce que ça attaque la réalité et comment l'épouse considère son mari pour après dans la vie réelle, dans le concret. Cette pornographie féminine qui transporte la femme dans un monde virtuel est dangereuse au même point, au même titre que celle avec les yeux. Ça va, vous nous suivez ?
D'accord. Alors, je vais vous laisser après lire la prochaine, mais c'est simplement ici, ce sont des statistiques qui montrent que derrière Facebook, derrière les chats, derrière tout ce monde virtuel, il y a des criminels qui ont pour objectif vos enfants et qui vont se montrer eux-mêmes comme des enfants et qui vont en fait bien être des prédateurs qui ont pour objectif de faire tomber ceux qui vous sont les plus chers dans des pièges. Donc, attention encore une fois, si vos enfants ont Facebook, bah soyez sur Facebook aussi. Parce que non pas pour les surveiller dans le sens, les contrôler pour n'en laisser aucune liberté, pas du tout, mais pour simplement savoir avec qui ils sont en contact et que des choses ne se passent pas à votre insu. Parce que malheureusement, on est dans un monde qui est extrêmement tourmenté à ce niveau-là et il y a beaucoup de prédateurs qui utilisent le pseudo-monde virtuel pour en fait agir dans le monde réel contre des êtres humains.
Expliquez-leur qu'il ne faut pas donner leur adresse, pas donner leur vrai nom, pas donner leur vrai âge, etc., pour ne pas risquer d'être une des victimes. 93% des rencontres d'un enfant avec quelqu'un qu'il a rencontré sur le net, 93% en fait se termine avec un abus sexuel.
Ça va ?
Donc, tous ces chiffres-là ont pour but de vous démontrer, s'il fallait, que ce n'est pas un détail en passant, la pornographie. Ce n'est pas inoffensif. Ça fait des vrais dégâts et c'est un vrai danger contre lequel il faut lutter. Évidemment, il y a des solutions. Hein, on va y arriver.
Alors, Rachel en a parlé un petit peu. Pourquoi est-ce que ce sont surtout les hommes qui sont piégés par cela ? Parce que c'est la nature même de notre fonctionnement sexuel d'être attiré par ce que l'on voit, par nos yeux. Et donc, évidemment, la pornographie montrant des images d'accouplement, etc., stimule directement la sexualité des hommes. Donc, pourquoi est-ce que les hommes y vont ? Bien, d'abord, pour satisfaire leur curiosité par rapport au corps de la femme, par rapport à la sexualité, et parce que, aussi, ça apporte une satisfaction rapide et immédiate, un réconfort. Bizarrement, souvent, les gens qui l'utilisent vont l'utiliser pour avoir un réconfort par rapport à un stress. Et souvent on se dit, mais en fait c'est virtuel, donc je ne fais de mal à personne, je ne trompe pas mon conjoint, et on se dit c'est virtuel, ça n'existe pas, sauf qu'il n'y a rien de plus faux et d'éloigné de la vérité que cela, parce que ce n'est pas virtuel. Les acteurs et les actrices sont des êtres humains réels, avec une âme, avec des parents, avec des souffrances. La plupart des actrices que vous voyez, vous ne savez pas d'où elles viennent, de quel pays, souvent elles ont été trafiquées, droguées, violées, battues pour faire ce qu'elles font. Si elles ne l'ont pas été, souvent elles viennent de familles où elles ont été abusées étant jeunes, d'où un dérèglement dans le comportement sexuel en tant qu'adulte. Et parfois chez les hommes, il y a aussi ce genre d'arrière-plan. Et ce sont des gens pour qui Christ a donné sa vie. Donc ce ne sont pas des êtres virtuels, ce sont des êtres réels qui existent quelque part. Donc attention à cela. Donc les hommes vont vers cela pour trouver un réconfort, une satisfaction rapide, sans avoir besoin de s'investir dans une relation réelle. C'est toujours disponible. Donc j'ai expliqué, ça semble sans conséquence, mais c'est faux. Il y a peu de risques de se faire prendre, mais on peut se faire prendre, et ça peut avoir des conséquences sur un travail, sur toutes sortes de choses. Beaucoup de connexions se font à partir de l'ordinateur au bureau.
20% à peu près, si vous voulez d'autres.
Donc je vous laisse imaginer le jour où votre supérieur découvre le pot aux roses. Peut-être qu'il ou elle fait pareil, mais en tout cas... ça se passera mal pour vous. La dernière phrase est en anglais, je suis désolé, je ne l'ai pas vue. Ça veut dire simplement ennui, solitude ou pauvre relation de couple. Les causes sont multiples. Une qui est très importante, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que les hommes vont vers la pornographie ? Parce que dès l'instant où l'on regarde ce genre d'image, il y a dans notre cerveau une sécrétion de ce que l'on appelle un cocktail hormonal qui regroupe toutes ces hormones, alors adrénaline, testostérone, oxytocine, dopamine, sérotonine, et ça provoque littéralement un flash comme de l'héroïne en provoque pour des toxicomanes. Et c'est ce flash qui immédiatement apporte une satisfaction physique, émotionnelle, spirituelle, et c'est tout de suite là, exactement comme dans le langage toxicomane, c'est un fixe que l'on se fait. Et après, on en a besoin pour être apaisé, pour faire face à des situations stressantes, etc. Et on aura toujours besoin d'un peu plus, à un moment donné, de pornographie pour retrouver cette satisfaction jusqu'au moment où le flash va disparaître, mais on est accro et on en a besoin pour vivre, tout simplement.
Ce cocktail hormonal crée une empreinte dans votre cerveau qui va devenir l'empreinte par défaut dans le cerveau de ceux qui sont tombés dessus, qui va devenir le chemin par défaut pour la sexualité. Donc si nos enfants... ou si un adulte a été exposé jeune, en fait, eh bien, quand il y a un stress, comme tu as décrit, ou d'autres détails qu'on va voir après, le réflexe du corps va être de retrouver ce chemin-là, à cause de cette empreinte chimique qui s'est faite, en fait.
Donc, pourquoi les hommes sont-ils tellement tentés ? En plus de ce que je viens de dire, c'est aussi parce que notre société challenge énormément les hommes dans leur rôle. Donc on a des doutes sur nous-mêmes, manque d'estime de nous-mêmes, des peurs, des sentiments de toutes sortes. Ça peut pallier au manque ou à l'absence de signification pour notre propre vie, ou bien un vide spirituel, une perte de relation avec Dieu. Le danger, c'est que il y a des conséquences à cela qui sont extrêmement concrètes. La pornographie crée une illusion au sujet des femmes. Pour ceux qui ont déjà visionné ce genre de film, vous saurez ce que ça signifie. Pour d'autres, je vais vous demander de me croire. Mais malheureusement, ça donne une image complètement faussée de qui est la femme et de ses besoins au niveau physique et de son fonctionnement au niveau sexuel. Donc ça donne l'impression que les femmes sont toujours prêtes, toujours reconnaissantes, comme des servantes, comme des esclaves en fait sexuelles, qu'elles aiment la violence dans une relation physique et que si elles disent non, eh bien en fait elles veulent oui, parce qu'à la fin elles sont toujours satisfaites. Donc, à votre avis, ça amène à quoi ? Ça, on entend tellement souvent maintenant des jeunes qui disent mais on l'a violé à plusieurs, parce que dans le schéma d'un film pornographique, la femme est consentante même quand elle dit non. Donc, ce n'est pas un viol, elle sera toujours satisfaite, alors qu'il n'y a rien de plus éloigné de la vérité.
D'où l'augmentation du drame des tournantes dans les garages et les immeubles.
Mais c'est un schéma complètement classique d'un film pornographique. Donc, ça suppose, laisse supposer que les femmes sont adeptes d'une sexualité à plusieurs, et en fait, toute cette pseudo-sexualité est complètement concentrée sur l'homme et absolument pas sur les besoins de la femme. Donc c'est complètement biaisé, c'est un énorme mensonge, et c'est l'éducateur numéro un des enfants pour ce que sera leur vie sexuelle d'adulte. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de grave. Donc toujours dans la même ligne, c'est supposer réaffirmer la suprématie, l'autorité masculine quand elle est très challengée dans le monde réel. Ça apaise les anxiétés envers la femme en évitant des rencontres réelles. C'est un échappatoire vis-à-vis de la réalité. C'est un échappatoire quand on a des échecs au niveau sentimental. Et puis ça compense toutes sortes de besoins au niveau de l'homme et aussi au niveau de la femme.
Ça donne les femmes qui se trouvent être accro à ça disent qu'en fait, parce que ça nous surprenait, comment est-ce que c'est possible qu'elles aient été accrochées ? Mais en fait, ça leur donne un sentiment de contrôle sur les hommes, parce que quelque part, c'est elles qui ont ça leur donne le sentiment d'avoir la main haute. C'est aussi lié à toute cette phase de la montée du féminisme, qui, à mon avis, a fait beaucoup de dégâts contre les femmes, parce que l'égalité à l'extrême qui a été réclamée, évidemment, je suis pour le vote pour les femmes, etc. Mais on n'est pas fait, on fonctionne pas pareil, on n'a pas les mêmes rôles. Et c'est une des conséquences de la montée du féminisme, en fait, qui a voulu dire que les femmes pouvaient tout faire comme les hommes et pouvaient prendre des rôles à la place des hommes. Et donc, on a un problème au niveau de l'équilibre entre le rôle des hommes et des femmes. Donc, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer à un autre moment.
Donc, toujours dans les conséquences dans la vie réelle et concrète, et c'est là qu'on voit que c'est plus du tout du virtuel. En fait, la pornographie, quelqu'un qui est dépendant de la pornographie, dans sa vie de couple concrète, si cette personne est mariée, et même si elle ne l'est pas d'ailleurs, ça va créer des distances de plus en plus grandes entre époux, ou bien dans la conception, dans la compréhension des relations hommes-femmes, ça détruit bien sûr des relations maritales, parce que certains hommes ne sont plus capables d'avoir des relations physiques normales sans être stimulés avant ou pendant l'acte par des images pornographiques, ne serait-ce que dans leurs pensées. Donc en fait, il y a superposition du monde virtuel sur le monde réel. Donc on devient malade, purement et simplement.
Et dans la version féminine, ça donne des réflexions de ce style-là. Ah, si mon mari était plus comme le pasteur, par exemple, ou comme un tel ou un tel dans l'église. Parce qu'il y a un phénomène de comparaison et un décalage avec la réalité, en fait.
Donc, bien sûr, ça entraîne des sentiments de trahison terribles dans le couple, surtout quand le problème a été caché, que l'un des conjoints découvre le pot aux roses. On se sent trahi, on se sent violé, on se sent sali, etc. Ça encourage le mensonge et la dissimulation, bien sûr. Et comme je l'ai déjà expliqué, ça entraîne une superposition du virtuel sur le réel. Par contre, une fois que l'on a donné à cela, et en fait, le plaisir est de courte durée, parce que ce qui suit, c'est toujours la honte, la culpabilité, la peur, la destruction de l'estime de soi, alors qu'au début, on y va pour retrouver de l'estime, pour retrouver plutôt un sentiment de je suis un homme, ou je reprends contrôle des choses. Et en fait, c'est l'inverse qui arrive. C'est une diminution de l'estime qu'on a pour nous-mêmes, une augmentation des complexes d'infériorité, de la colère et du dégoût par rapport à soi. Et puis, on devient dépendant chimiquement dans notre cerveau par rapport à cette stimulation. Et puis, on a toutes sortes de comportements sexuels qui, comme la masturbation quand elle est chronique, qui devient un problème dans la vie réelle. Et ça peut même entraîner une destruction, bien sûr, du rôle de mari, puis du rôle de père et de protection du père par rapport à ses enfants.
Il y a une vraie porte ouverte au diable dans une famille si malheureusement le papa est exposé à cela. Parce qu'il n'est pas rare de voir après les enfants qui sont aussi eux-mêmes en danger à ce niveau-là.
Parce que le père a un rôle de chef spirituel. Et que quand au niveau du chef spirituel, la porte est grande ouverte au péché, eh bien entendu, ceux qui sont sous sa responsabilité spirituelle, qui devraient être bénis par lui, se retrouvent exposés par défaut. Et donc, cela a des conséquences. D'autres, c'est d'apporter des fantasmes, évidemment, déplacés dans la vie réelle avec son conjoint. La perte de l'efficacité au travail. Il y a un site internet que je vous conseille vraiment vivement si vous voulez en savoir plus. Ça s'appelle antiporno.ca, c'est-à-dire Canada. C'est toute langue confondue le meilleur site qui parle de la pornographie que j'ai jamais trouvé. C'est un chrétien, Michel Morin, qui l'a créé et qui vous explique encore plus en détail tout ce que l'on fait ici rapidement. Et donc, certains toxicomanes à la pornographie ont accepté de subir un IRM de leur cerveau et on trouve dans le lobe frontal, c'est-à-dire la partie qui est la partie décisionnelle du cerveau, on trouve la même destruction que chez les gens qui ont été toxicomanes avec de l'héroïne ou de la cocaïne pendant des années. Il y a comme un sillon qui détruit la volonté, la prise de décision et qui, en fait, pour tout stress, pour tout moment de décision, va refaire passer la personne par la pornographie pour retrouver du réconfort, etc.
Il y a un livre qui a été écrit en anglais, le titre m'échappe jusqu'à maintenant. Mais bon, il décrit une affaire de l'esprit. Il décrit l'histoire d'un chef d'entreprise qui s'est retrouvé piégé et décrit sa chute, en fait, sa décadence. Malheureusement, il ne s'en sort pas, mais il finit, il passe de chef d'entreprise, il finit à un travail à la chaîne et il part tous les matins avec sa sacoche de chef d'entreprise pour se souvenir d'où il est venu, en fait, d'où il est tombé. Et il explique dans ce livre qu'en fait, il n'avait plus la volonté, plus la force de faire autrement. Donc c'est un piège qui s'est refermé sur lui. Là, on part d'un degré d'addiction élevé, hein, mais le piège s'est refermé sur lui et il a fini sa vie de façon catastrophique. Il a tout perdu.
Et donc, bien sûr, il y a ce phénomène d'aller toujours plus bas pour avoir ce flash. Et aussi, ça entraîne évidemment des passages à l'acte dans la vie réelle avec toutes sortes de drames qui peuvent en suivre. Donc, on va terminer avec les conséquences. Bien sûr, au niveau de la vie de la femme, les femmes se sentent beaucoup plus humiliées, dominées. Réification veut dire simplement transformer en objet. C'est-à-dire que la femme n'est plus considérée comme un être humain, mais simplement comme un objet de satisfaction sexuelle, se retrouve harassée beaucoup plus souvent au travail, et puis violée malheureusement beaucoup plus régulièrement. Mais ça met, on l'a vu aussi, en danger les enfants, quand la pornographie devient l'éducateur sexuel, et entraîne les enfants dans toutes sortes de choses. Alors, j'ai entendu une fois les chrétiens se dire « je ne dirai jamais rien à mes enfants sur la sexualité, j'attendrai, quand ils seront mariés, ils se débrouilleront tout seuls ». Il n'y a rien de pire que d'avoir cette position-là. Je sais que c'est challengeant, je sais que ce n'est pas facile de parler avec ses enfants de la sexualité, mais si vous ne le faites pas, vous demandez au diable de le faire à votre place. Et la cour d'école s'en chargera. Vous avez peur de leur parler de mots comme masturbation, comme n'ayez pas crainte, le diable va leur dire des mots beaucoup plus impressionnants et il va appuyer avec des images et vous ne serez pas là pour savoir ce qui se passe. Donc nous avons une énorme responsabilité à prendre. Est-ce que l'on veut être ceux qui vont parler à nos enfants et leur dire « attention, la sexualité c'est beau et voilà comment Dieu en parle » et mettre des mots. Nos garçons, quand ils ont atteint l'âge où ils commençaient à poser des questions, ils m'ont demandé ce que la masturbation, les rapports sexuels, c'est quoi, etc. À ce moment-là, je me suis dit « Eric, tu l'as voulu, maintenant c'est le moment, vas-y, parle ». Au début, c'est pas évident, on se sent un peu tout penaud, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on leur donne des armes pour se défendre contre un monde qui n'a pas de pitié pour eux et qui les cible.
Alors évidemment, il faut bien faire attention à l'âge à laquelle vous discutez avec les enfants. Hein. Il ne s'agit absolument pas d'exposer ou de donner des concepts à des enfants qui ne sont pas prêts. Attendez qu'ils viennent vous demander, enfin priez pour ça, parce que sinon vous feriez l'effet inverse, des dégâts. Moi, j'ai eu à travailler avec des femmes qui avaient été en salle d'école du dimanche, exposées à des mots comme masturbation, etc., avec de bonnes intentions. Hein. Les moniteurs avaient eu l'intention de faire ce qu'on fait, de la prévention, etc. Donc les intentions étaient bonnes, mais elles n'étaient pas du tout au courant. Et elles se sont retrouvées prisonnières de ça, parce que d'un seul coup, elles y étaient exposées. Ah bon, ça existe, qu'est-ce que c'est? Et boum, elles sont tombées dedans. Alors attention à la manière avec laquelle on expose. Hein. On ne vous dit pas rentrez chez vous et déballez toute l'histoire à vos enfants, hein. Pas du tout.
Ne devancez pas les besoins de vos enfants, mais quand ils auront des questions et quand vous voyez qu'ils approchent l'âge, eh bien dites-leur que vous êtes là pour eux et entretenez cette relation d'amitié entre vos enfants et vous pour pouvoir être la personne vers qui ils se tourneront plutôt qu'un copain de classe.
Ça va, ça fait peur hein, tout ce qu'on vous partage là.
C'est bon ? Vous tenez bon ?
Est-ce que vous croyez que les chrétiens sont aussi exposés ou en danger ?
Alors, attention, pourquoi est-ce que les chrétiens vont regarder de la pornographie? Il y a évidemment multitude de raisons, en plus de celles qu'on a déjà vues pour tout un chacun, le sentiment que rien ne peut m'arriver. Si vous avez été après un grand moment spirituel, c'est pour ça que le dimanche est le jour où il y a le plus de connexions sur les sites pornographiques, il y a comme un sentiment de « Seigneur m'a béni, je me sens fort, rien ne peut m'arriver, et puis je peux m'octroyer une petite récréation, ben, ça peut pas m'atteindre, je suis plus fort que ça, etc. » Attention, c'est quand nous sommes forts qu'il faut prendre garde de ne pas tomber et surtout pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Quand vous vous êtes vidé spirituellement, vous avez conduit les chants, bien vous avez servi Dieu, vous avez eu des victoires spirituelles, vous dites « Waouh, c'est vraiment super !» C'est souvent là que vous êtes le plus menacé.
Donc attention à ce que vous mettez devant vos yeux le dimanche soir. Surtout si vous avez eu un bon culte, un bon temps de louange, que vous avez senti la présence de Dieu. Attention, vous êtes en danger.
Donc la solitude aussi, les longues heures passées face à votre ordinateur. Pas de surprise ici, c'est évidemment quand on s'ennuie, quand on a du stress et qu'on est tout seul face à un ordinateur, la tentation est gigantesque. Donc sachez reconnaître ces moments. Attention aussi, comme la pornographie amène du réconfort, quand on a des doutes dans notre relation avec Dieu, on peut être tenté, aussi bizarre que ça puisse paraître, de trouver un réconfort spirituel dedans, qu'on sorte comme un apaisement, etc. Donc, si l'on a des portes ouvertes, le diable saura malheureusement les exploiter. Ce sont certaines des raisons pour lesquelles les chrétiens aussi peuvent se trouver piégés par cela. Alors, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la pornographie? Puis après, on va bientôt terminer et vous donner, pour ceux qui ont le temps et ceux qui le veulent, l'occasion de poser des questions. Bien sûr, le Seigneur dit, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, il n'est même pas besoin d'aller vraiment coucher avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas notre conjoint. Le simple fait qu'on y pense, que l'on se projette dans des scénarios, que l'on regarde des gens faire l'amour, eh bien, c'est de l'adultère à 100% et c'est Christ qui le dit. Donc, c'était bien avant que les films comme cela existent. Mais tout est dans nos pensées, dans notre cœur. Et la Bible dit de faire attention à notre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Et si on ne fait pas attention à ce que l'on met dans notre cœur, eh bien, ça aura, bien sûr, après des conséquences dans notre vie concrète.
Vous pouvez lire Matthieu 5, 27 à 29.
Aussi, Job, qui peut-être est le livre le plus ancien de l'Écriture, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc on voit qu'il était lui aussi préoccupé par ses yeux et son regard.
Job 31, 1.
Et puis Paul, mais je ne veux pas vous abrutir de versets, dit « Fuyez l'impudicité, parce que tous les autres péchés sont en dehors du corps, mais celui-ci, en fait, pèche contre notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. » Dieu a un autre plan pour notre corps. On n'a pas besoin de la pornographie pour découvrir la sexualité. On peut la découvrir d'une manière saine, d'une manière sûre, sans avoir recours à ces genres de choses.
On en parlera la deuxième et la troisième séance.
Donc, ce qui est important, c'est de réaliser que vous n'êtes pas seul et que d'autres personnes sont piégées ou ont été piégées comme vous l'avez peut-être ou l'êtes peut-être en ce moment. Jacques dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et quoi ?» Ce n'est pas quelque chose qui triomphera de vous pour toute votre vie. Je vais le redire. Ce n'est pas quelque chose qui vous a vaincu d'une manière définitive. C'est quelque chose qui est diabolique, que le diable utilise pour nous détruire. Et oui, on peut avoir la victoire sur la pornographie. Est-ce que pour des gens qui ont été touchés par ça, il faudra se garder toute notre vie? Oui, oui et oui. On ne devra jamais se relâcher sur nos yeux. Et il pourra des fois arriver que notre pied glisse, mais c'est comme quand on apprenait à faire du vélo. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la course. On peut se relever si on se repent, si on se remet en selle et repartir et continuer. Moi, j'ai été prisonnier de la pornographie. Elle est rentrée dans ma vie, j'avais 11 ans. Dans le cadre de la famille, je ne l'avais pas demandé. Et pendant 10 ans, j'ai grandi quand j'étais inconverti dans ce milieu-là, pensant que c'était normal. C'est uniquement à la conversion que je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. Et qu'après, il m'a fallu lutter contre cela, garder mes yeux et mon cœur et être toujours, toujours, toujours vigilant. Donc, je le dis pour que vous ne vous sentiez pas seul et que vous ne disiez pas « Ouais, mais un pasteur, il ne sait pas ce que c'est. » Eh bien, si. Et vous seriez surpris de vous rendre compte qu'ils sont même peut-être des cibles encore plus grandes. Il y a aux États-Unis des sites qui sont soi-disant faits pour que des pasteurs trouvent des messages et qui sont en fait des sites pornographiques pour faire tomber les pasteurs précisément. C'est aussi pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont fait un site qui s'appelle Triple X puis Watch et qui se présente comme un site pornographique qui est en fait un site de chrétiens contre la pornographie. Mais bien
sûr,
pour aider ceux qui en sont prisonniers.
Philippiens, tout le monde connaît PH 4.4, j'imagine. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Eh bien, apprenez, si vous avez besoin de lutter contre... Tu peux le laisser, s'il te plaît. Contre la pornographie, PH 4.8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux, que vos pensées se tournent vers quelque chose de pur.
Voilà, et le dernier que je voulais citer, c'est que le mariage soit honoré de tous, c'est le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Maintenant, comment faire pour se battre contre cela ? D'abord, réaliser que vous n'avez pas perdu votre salut parce que vous êtes tombé dans ce piège. Je vais me répéter, vous n'avez pas perdu votre salut. Dieu vous aime. C'est un péché qui, c'est une arme que le diable essaie d'utiliser contre vous. Et le fait en vous isolant, le fait qu'on ne puisse pas en parler, on se dit « je suis fichu, j'ai plus d'issue, je suis perdu », ça ne retire pas non plus le désir de Dieu de vous utiliser pour son service. Vous avez été piégé, vous devez vous battre comme vous vous battriez contre d'autres problèmes. Mais ce n'est pas une raison pour perdre son salut, pas plus qu'un autre péché. À moins que l'on s'y entretienne et que l'on rejette Dieu de notre vie, ça c'est une autre histoire. Mais le fait d'être piégé par cela, ce n'est pas la fin du combat, c'en est au contraire que le début.
Tout ce que Eric vient de dire s'applique si votre enfant vient discuter avec vous et vous explique qu'il est prisonnier de cela, ou si votre conjoint fait la même chose et à la suite de cette réunion ou dans un autre cadre, vous révèle cela. Tout ce qu'Eric vient de dire s'y applique. La meilleure façon de démarrer, c'est de le confesser. C'est pour ça qu'on prend des précautions en vous disant, ne vous dites pas c'est la fin du monde, c'est fini, il a perdu son salut. Non, c'est le début du combat en fait. Et à deux, on est plus fort. Donc si vous êtes marié, confessez-le à votre époux et votre épouse. Et puis, il y a des moyens de vous en sortir.
Alors, je voudrais parler aux hommes. Le plus dur pour un homme, c'est la honte de le dire à sa femme. Ça fait honte, on se trouve minable, comment on a pu faire ça, etc. Alors que le plus dur pour une épouse, ce sera quoi ?
C'est le mensonge, le fait de le cacher, de se battre tout seul.
Alors nous, on se dit, je ne peux pas lui dire parce que j'en ai tellement honte que je me sois vautré là-dedans, que je sois retombé. Alors que pour notre épouse, le plus dur, c'est que justement, on ne le lui dise pas.
Elle va se dire, mais tu ne m'as pas fait assez confiance en fait. Tu ne m'as pas assez aimé pour venir me le dire. Tu ne croyais pas assez en moi pour venir me le dire.
Et la pornographie, souvent, n'a rien à voir avec la... Des fois, elle est liée, mais parfois, elle n'a rien à voir avec le couple en lui-même. C'est un ennemi qui est extérieur. Et en fait, il faut réaliser que notre plus grande alliée, c'est notre conjoint. Et on doit être tous les deux pour se battre contre cela. Alors, d'autres choses très importantes, il est nécessaire d'avoir un partenaire de redevabilité. C'est quoi ce mot bizarre ? Ça veut dire d'avoir quelqu'un qui peut être notre conjoint ou quelqu'un d'autre en qui on a suffisamment confiance pour dire « voilà, j'ai un problème, j'ai besoin de t'en parler, et j'ai besoin que tu me poses régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, les questions auxquelles j'ai besoin de répondre. Par exemple, est-ce que tu es allé sur un site ? Quelle a été ta vie de pensée ? Est-ce que tu as eu des problèmes ? Est-ce que... etc., etc. Est-ce que vous avez quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance pour pouvoir... établir une relation de partenariat, de redevabilité avec cette personne. On a besoin de ne pas être tout seul pour pouvoir vaincre cet énorme géant. Installer un software de surveillance sur vos ordinateurs. Ces softwares dont j'ai parlé, X3 Watch, c'est pas un software qui va vous empêcher, c'est pas un programme qui va vous empêcher d'aller sur un site. Quoique je vous demande d'en avoir un si vous avez des enfants en bas âge, un programme qui bloque l'accès. Mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas la meilleure façon de lutter contre. Ce programme ne vous empêche pas d'y aller, mais par contre, il est complètement invisible. Il va envoyer à quelqu'un que vous avez choisi un rapport toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, qui montrera si vous êtes allé. Et ça donnera la possibilité d'en parler, d'en discuter et de comprendre pourquoi et d'arriver à lutter à la cause, à la racine du problème. C'est bien d'avoir un groupe, encore une fois. Pour ne pas être seul, très important, connaissez-vous bien et faites-vous une liste écrite. Quelles sont les 4-5 conditions qui sont réunies à chaque fois que vous vous êtes cassé la figure ? Et faites-vous-en une liste, gardez-la dans votre Bible précieusement, que personne n'y a accès, mais dès l'instant où vous sentez qu'il y en a une ou deux de ces conditions qui tournent au rouge, alors sachez que vous êtes en danger et réagissez.
Puis ensuite, il faut utiliser la stratégie du off-on. C'est inversé sur notre présentation, c'est off-on. Donc, on éteint tout ce qui apporte de la nourriture à... On appelle ça le monstre, là, la pornographie. Donc, attention à ce que vous mettez devant vos yeux, etc. Dès que vous êtes en condition, interpellez-vous à voix haute, de prier, mettez-vous à prier à voix haute, etc. Et... vous pouvez vous installer un élastique autour du poignet, une punaise dans la poche, et à chaque fois que vous êtes tenté, faites claquer un grand coup d'élastique ou piquez-vous la punaise très fort dans le doigt. Pourquoi ? Parce que ça va envoyer un message de douleur à votre corps et ça va commencer à travailler pour rectifier l'empreinte chimique qui a été mise dans le corps des personnes qui ont été accrochées en fait à la pornographie. Et votre corps, petit à petit, va se rééduquer. À chaque fois que qu'il y a une tentation, boum, il y a un message de douleur. Donc, il ne faut pas faire gling un tout petit peu. Hein. Vous y allez franchement, ça finit par se calmer. Après, vous n'avez plus besoin. Alors, maintenant qu'on en a parlé publiquement, peut-être mettez-le à la cheville, sinon tout le monde arrive avec un élastique. On va savoir ce que ça veut dire. Mais bon, si vous mettez une punaise dans la poche, personne ne le voit, et vous enfoncez un grand coup, oui, ça fait mal, et ça change le message chimique.
Alors, sachez qu'il faut de 30 à 40 jours pour que le cerveau enregistre un changement par rapport à une association. Maintenant, à moins que Dieu ne vous touche miraculeusement, et ça ne vous dispensera pas de veiller et d'être vigilant toute votre vie, j'insiste, un miracle, une délivrance miraculeuse est possible, alléluia, mais ça ne vous dispense pas de vous protéger. Maintenant, il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Mais mes frères, il faut apprendre à la théorie du rebond, par exemple, avec vos yeux. Si vous voyez quelqu'un qui vous attire sexuellement, vous croisez cette image, le premier regard, mais vous pouvez l'arrêter, le péché commence au deuxième regard, quand vous y revenez pour voir si vous avez bien vu ce que vous avez vu. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc apprenez ce qu'on appelle la théorie du rebond, c'est-à-dire ne tolérez rien. C'est comme un alcoolique qui peut retomber dans l'alcool à cause d'une griotte au kirsch, parce que la molécule d'alcool est dedans. La pornographie, c'est pareil. Nos niveaux de tolérance sont très bas quand on a été habitué à la pornographie. « Oh, je peux regarder des femmes nues à la télé, ça me fait rien, j'ai vu tellement pire. » Le problème, c'est que ça vous fait quelque chose quand même. Comme un toxicomane qui continuerait de fumer du tabac n'est pas délivré de l'héroïne, parce que tôt ou tard, il y a toujours cette dépendance chimique à un produit et il y retournera. Il faut une coupure qui soit totale et il n'y a pas d'autre solution. Donc en fait, il faut réapprendre à des standards qui soient plus élevés, et la meilleure personne pour vous apprendre ces standards, c'est souvent votre conjoint.
Et si vous n'êtes pas marié, eh bien imaginez-vous qu'un jour vous rencontrerez celle ou celui qui sera votre conjoint, et il vous faudra avouer ça, expliquer ça. Donc nos enfants sont des ados, on leur dit souvent gardez-vous, gardez vos pensées, etc. Parce qu'imaginez si celle qui va être votre femme, parce qu'on n'a que des garçons, était en train de faire ça, en train d'aller regarder des hommes ou de faire ça et ça et ça, seule devant son ordinateur, comment tu te sentirais si ta future femme était en train de faire ça? Comment vous vous sentiriez si votre futur mari était en train de faire ça? Si vous n'êtes pas marié, projetez-vous comme ça pour voir l'effet que ça fait. Si vous êtes une épouse et que vous avez ces pensées qui vous traversent, arrêtez-vous et remplacez-la par un compliment sur votre mari. Même s'il faut réfléchir au début, quand c'est un moment de pas facile. Les jeunes mariés, d'accord, vous ne me croyez pas, mais vous allez voir que ça vient. Et si vous faut réfléchir, eh bien réfléchissez. Non, pas toi, mon cher. Non, pas toi, oui. Si vous êtes dans un moment où c'est difficile et que vous avez besoin d'y réfléchir, eh bien faites l'effort exactement comme le mari va s'enfoncer la punaise dans le doigt, eh bien mettez un compliment sur votre mari, regardez-le, demandez à Dieu de vous redonner de l'amour pour lui, etc. Réapprenez à aimer votre mari.
Donc, une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, souvent, quand on est pris dans la tentation, ça nous prend tellement la tête et les pensées que l'on ne réfléchit plus, on devient complètement stupide et on se rend plus compte. Ce qui est important, ce qui peut marcher, c'est interpellez-vous à haute voix. Dites-vous, Eric, c'est ce que tu veux là vraiment? C'est comme ça que tu veux aimer ta femme? Pense aux conséquences aussi. Pense à l'après. C'est-à-dire après les quelques secondes de « Ah !» Pense à toute la culpabilité, au fait que tu as trahi, tu as menti, etc. Interpellez-vous à haute voix. Ça fait sortir de cette espèce d'assoupissement spirituel et de « on ne sait plus ce qu'on fait ». C'est comme un électrochoc, ça nous réveille. Et aussi, pensez aux choses saines qui pourront vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. Ça peut être chanter, jouer de la musique, ça peut être aller faire du sport, ça peut être aller parler à quelqu'un. Pensez à remplacer, parce que vous êtes dans un besoin légitime, mais à ce moment-là, vous risquez de répondre d'une manière qui soit illégitime. Donc, votre besoin de réconfort, votre détresse, votre solitude, comment est-ce que vous pourriez répondre d'une manière qui soit saine et équilibrée?
Ça, c'est le « on ».
Donc, remplacer.
On tourne « on ».
Encore une fois, connaissez-vous vous-même, listez cela et dites-vous « ok ». Bien là, peut-être qu'il faut que j'aille jouer de la guitare, ou peut-être que j'aille courir, ou peut-être que j'aille rencontrer dans un endroit où je ne serai pas tout seul, où je vais avoir du monde autour de moi. Si vous êtes tout seul le soir, est-ce que votre partenaire de redevabilité, peut-être que vous pouvez lui passer un coup de fil. Et là, je ne vais pas bien, je me sens tenté, tu peux prier avec moi? Et ça peut changer absolument tout. Voilà, on a fini, et je voudrais juste vous montrer donc un dernier verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, même création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pourquoi cela ? Parce que en Christ, nous sommes vainqueurs de la pornographie. Et nous, même si elle a pris une place immense dans votre vie, vous pouvez, de la même manière que Christ délivre de l'alcool, de la drogue, vous pouvez complètement vivre d'une manière affranchie par rapport à cela. Et ça, c'est le plus gros des mensonges de l'adversaire, c'est de croire que vous ne pouvez pas, et si vous pouvez. Le Seigneur peut même vous délivrer au niveau de votre banque d'images, de vos pensées, afin que quand vous entrerez dans un couple, si vous n'y êtes pas, ou bien quand vous êtes à nouveau stimulé physiquement d'une manière légitime avec votre conjoint, eh bien que ces choses ne reviennent plus à votre pensée. Oui, ce qui est impossible à un homme est possible à Dieu, et il peut vous délivrer de tout cela.